Ses reliures avec Gisèle. Une rencontre intimiste avec les auteurs. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, vous êtes dans Reliure, l'émission de Gisèle à Radio Galaxie. Une bien belle musique que nous avons écoutée, c'est la Saint-Donne. Avec nous, Christian Louis, qui est professeur agrégé, artiste et auteur, pour notre plus grand plaisir d'ailleurs. Bonjour Christian.
Bonjour.
Cette musique, pourquoi ?
Tout simplement parce que c'est la musique que j'écoute quand j'écris. Je suis très éclectique au niveau de l'écoute musicale et j'ai un plaisir particulier à la musique contemporaine.
Oui. On va parler de votre troisième livre, L'assassinat de Saint-Béat. Au cours de l'enquête, rappelons que ça se passe à Saint-Béat, c'était en 1781. On va continuer cette histoire des Martins et des deux fonds de ville. Ce sont des faits réels que vous avez trouvés dans cet épisode d'histoire qui est de chez nous, finalement, puisque le Comminges, c'est vraiment à côté. Comment est-ce que vous vous sentez à la fin de cette histoire? Parce que vous avez écrit 3 volumes. Comment vous avez trouvé cette fin?
Bien sûr, je ne vais pas la révéler pour ceux qui n'ont pas lu le livre. La seule chose que je peux dire, c'est que je trouve une évocation de cette réponse à cet assassinat, un petit peu évoqué par le mémoire en défense des deux fonds de ville, mais c'est juste évoqué et je vais avoir confirmation sur des actes notariés. Cette hypothèse qui est déjà avancée à l'époque, mais sans preuve, Bien sûr, puisque la justice de l'époque n'a pas fouillé dans les actes notariés des diverses familles. Ces actes, ils sont maintenant disponibles et j'ai pu effectivement, pour ceux qui ont lu, ils comprendront ce que je veux dire, j'ai pu trouver des preuves dans notamment un acte notarié assez, assez intéressant.
Comment on se sent quand on fait une découverte comme ça, justement?
Toute cette enquête, d'ailleurs, puisqu'elle a duré quand même 6 ans,
oui,
ça n'a été que du plaisir. Le plaisir de formuler des questions, le plaisir d'enquêter sur le terrain, rencontrer des gens, fouiller dans les archives, aller voir dans les villages, plaisir de redécouvrir mon territoire.
Oui.
Moi, je suis, comme je le disais dans une émission pyrénéenne, et citoyen du monde, et je suis du Nébouzan et du Comminges. Et j'ai pu, à la faveur de cette enquête, revisiter des villages et savoir que ce tas de cailloux, là, avant, c'était la maison d'un tel, c'était le moulin d'un tel, c'était... voilà. Mon sentiment, après avoir écrit ce livre, c'est le sentiment de quelqu'un qui, par exemple, tombe sur un livre dans une langue étrangère, repère quelques mots qu'il connaît, et curieux, il va essayer de traduire ces mots, et plus il avance dans ce travail, et plus ce livre mystérieux se dévoile.
Mmh.
Et ce territoire qui est le mien et celui de ma famille depuis des générations et des générations, eh bien, je l'ai redécouvert, finalement. J'ai découvert des choses qui se sont passées sur ce territoire et que je ne savais pas. Le volcan, l'épizootie, la visite de grands personnages de la cour du roi.
Oui.
Tout ça, je l'ai découvert en menant mon enquête. Et ça a été assez passionnant. Quand je passe maintenant sur tel pont, je sais qu'il a été construit à telle époque et qu'il a suscité tel problème.
Oui.
Quand je passe sur cette route, je sais qu'il y a eu des affrontements pour que cette route se fasse, etc., etc. J'ai terminé ce roman avec une conscience plus vive de l'histoire de mon territoire qui m'a permis aussi de comprendre souvent les réactions contemporaines.
Oui.
Je vois qu'à l'époque, il y a des rivalités de villages. Il y a des rivalités de maisons, il y a des rivalités de familles. Et moi, aujourd'hui, quelquefois, je regarde avec beaucoup d'amusement dans certains villages des querelles entre les gens, mais des querelles incompréhensibles. Et quand on regarde l'histoire, eh bien, on voit que ça vient de très loin et les gens ne le savent même pas.
Mm-hmm.
Deux villages qui se détestent, ils ne savent pas pourquoi. Et là, dans certains cas, je peux dire, eh bien, effectivement, c'est arrivé à cause d'événements qui se sont déroulés dans ce village. Pour essayer de faire réponse à votre question, je ressors, je dirais, un petit peu plus éclairé sur la vie de mon territoire et sur la compréhension de certains blocages.
Je comprends. Pourquoi Cadet se gosse-t-il d'avoir tué le Seigneur? Est-ce que c'est pas vu, pas pris?
Oui, bon, c'est la psychologie de Cadet, quoi. C'est-à-dire que cette famille Martin, mais essentiellement Gérard Martin, le père, et puis son fils, ben, ce sont des personnages qui font un petit peu les matamores. Retenez-moi, je fais malheur. Et ça existe toujours, ça. Oui, oui, ce sont un peu des fanfarons, en quelque sorte.
Mm-hmm.
Oui, je vais le faire. Je vais... À cette époque-là, quand même, dire qu'on va tuer un noble,
oui,
c'était risquer quand même la potence, quoi.
Ah, c'est tout bien. À fait.
C'est un exploit pour eux. Ça en dit long, très probablement, de la mentalité de l'époque et de cette colère, je dirais, du peuple, qui vit très difficilement dans les Pyrénées. Les gens sont pauvres.
Mmh.
Qui voit dans la vallée de Luchon, mais dans d'autres vallées aussi,
oui,
des riches personnages qui viennent prendre les eaux, qui dépensent des fortunes, qui jouent. Il y a certainement ceux qui sont suffisamment malins pour détourner un petit peu ce torrent vers leur prairie, pour faire métaphore avec cette histoire, et
oui,
donc gagner un petit peu d'argent. C'est les guides, c'est les accompagnateurs, c'est les gens qui commencent à créer des auberges pour l'hébergement. Et puis il y a tous les autres qui mangent peu, qui ont des travaux extrêmement difficiles et douloureux, et qui voient des gens qui ne font rien de la journée.
Mmh.
Et je pense que là, c'est créé un sentiment de révolte, et que, hors les places publiques, on devait dire, un de ces jours, on va les zigouiller.
Oui. Les Martins sont contraints à l'exil. On l'a vu déjà un petit peu à la fin du deuxième, mais on le voit beaucoup ici. Ils résistent, ils ne se soumettent pas à l'injonction de payer. Pourquoi, d'après vous, ils ont préféré l'exil, et pourquoi surtout? parce qu'ils étaient conscients que s'ils refusaient de payer leurs dettes, ben, à un moment ou à un autre, ben, ça irait mal.
C'est une des énigmes de cette histoire.
Et oui.
On voit bien que, bon, d'abord, ils ont fauté. Ils ont provoqué des dégâts, ils ont été condamnés à payer. Ils pouvaient payer. Mais là, bon, on peut dire qu'il y a peut-être une question de fierté, quoi. C'est-à-dire, donc, je ne vais pas payer, je vais résister. Bon. Cela dit, c'est quand même assez dangereux. Et puis, ils vont se répandre en paroles de menaces. Là, je ne parle pas des témoins qui sont obligés de parler à cause des monitoires et qui sont rémunérés pour leur témoignage. Oui. Je parle de gens, de curés, de marchands, de notables qui disent « Oui, j'étais dans la diligence, hein, vous l'avez vu, il y a des
oui.
Et j'ai entendu, il y a beaucoup de témoignages de gens qui disent « J'ai entendu Gérard et Cadet dire « On va tuer de Fonneville ». C'est quand même tout à fait étonnant, parce que faire le malin entre guillemets, la grosse brute, je vais le tuer, bon. Mais de là à les tuer vraiment et risquer d'être roué, d'être exécuté, il y a quand même un pas. Et ça, c'était un des mystères donc, que je lève vraiment à la fin. Pourquoi ont-ils pris ce risque?
Oui, tout à fait.
Absolu. Ils auraient pu être contraints par corps tout de suite. On verra par la suite pourquoi ils ne sont pas contraints par corps. Et puis peut-être qu'ils font ça parce que le Val d'Aran est à côté. Et puis on saute sur un cheval, on s'échappe.
Oui, tout à fait.
Et il n'y a pas la maréchaussée pour arrêter. Et puis ils connaissent les chemins, ils savent très bien où passer.
Oui.
Ils peuvent se dire aussi, je fais ce forfait, je m'échappe. Puis je continuerai mes affaires de l'autre côté de la frontière.
Mm-hmm.
Donc, tout flotte comme un doute. Est-ce que vraiment c'est de la forfanterie, et puis ils ne commettent pas vraiment ce meurtre, et c'est quelqu'un d'autre qui l'a commis.
Oui, mais apparemment, voilà. Ça serait Cadet quand même qui a tiré vraiment le coup de feu.
Ouais.
En plus, il s'en vante, c'est quand même lui le fautif, quoi.
Ouais, ouais.
Même si son père l'a un petit peu guidé quelque part, parce que son père lui apprend à être vraiment... Le détestable, quoi, pour le village.
Les deux frères ont des forts caractères.
Tout à fait.
Mais ils ont des psychologies différentes.
Oui.
L'un va se révéler une brute sanguinaire. Et puis l'autre
est plus sournois, finalement.
Oui, et l'autre il va s'engager quand même dans l'armée révolutionnaire.
Oui.
Il va devenir un chef lui aussi, mais un chef dans un cadre. Il a été éduqué, il a été à Sorèze.
Voilà, c'est la différence, c'est l'éducation chez eux, en fait.
Oui. Ouais.
Pierre Clerc de Fonneville, le fils de celui que l'on a tué, a préféré s'expatrier. C'est pas qu'il ne veuille pas l'affrontement, mais bon, il veut quand même protéger sa famille et c'est ce que l'on comprend. Est-ce que c'est vraiment parce qu'il sait que c'est un coup monté?
Je pense que c'est un jeune homme intelligent, il est avocat.
Oui.
Son père se promenait librement, sans escorte. Il allait souvent à pied. Sur ses chemins, il ne pensait pas que ces menaces étaient sérieuses. Et là, Pierre Clerc découvre qu'effectivement, là, il y a eu un traquenard, et donc son père a été assassiné, et lui-même a failli mourir.
Il
a été blessé, mais blessé au bras, donc à quelques centimètres, il était tué, lui aussi. Et je pense que là, tout d'un coup, il prend conscience qu'effectivement, il y a une haine contre sa famille, et que les menaces qu'il a lui-même entendues, eh bien, elles sont vraiment réelles. Et là, il décide de mettre sa famille à l'abri et de partir.
Les deux Fonneville sont près du peuple. Ils n'hésitent pas à aider. Ils n'hésitent pas à les soutenir. Qu'est-ce qui fait que le peuple soutient plus les Martins qui, eux, par contre, les dénigrent, leur en font voir, les traînent dans la boue, les traitent comme des bestiaux? Qu'est-ce qui fait que le peuple soutient les Martins et non les Fonneville qui, eux, leur voulaient finalement du bien, même s'il fallait qu'ils travaillent dur?
Oui, je crois que c'est la question de la manipulation et la question peut-être aussi du bouc émissaire. C'est beaucoup plus facile peut-être de dire le responsable de votre malheur, de votre misère, c'est le noble.
Oui.
On l'identifie, on va résoudre vos problèmes en le trucidant. Et dans des situations de crise comme ça, il est très difficile à une foule d'écouter, je dirais, des propos plus modérés, plus complexes.
Mm-hmm.
Dans les situations de crise, la complexité est évacuée. Et on l'a vu dans l'histoire, à de très nombreuses reprises. Il faut un bouc émissaire. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas d'information à cette époque-là.
Et non.
Les gens de Saint-Béat, des autres villages, ils ne savent pas que les Fondeville donnent de l'argent aux pauvres. D'ailleurs, Pierre-Claire de Fondeville, bon, on le découvre, et je l'ai découvert dans les pièces d'archives, il est obligé de fuir, de se cacher, et une fois qu'il est installé, eh bien, il continue à donner de l'argent aux pauvres de la commune de Marignac.
C'est vrai.
On le voit avec les pièces d'archives, puisqu'il faut une autorisation du roi. Et il y a très peu de personnes qui sont chaque année autorisées par le roi. Alors là, je parle du roi après la Restauration, bien sûr.
Oui.
Et dans son testament, j'ai vu la pièce, il continue, après sa mort, à léguer de l'argent aux pauvres de Marignac. Donc c'était vraiment Pierre-Claire de Fondeville, c'était vraiment quelqu'un qui avait la préoccupation de la pauvreté.
S'ils avaient le sens des affaires.
Ah, ils avaient le sens des affaires. Mais ils ne volaient pas les gens.
Oui.
Hein, ils achetaient des mules, ils les faisaient engraisser en vallée de Luchon. Ils les vendaient au marché de Saint-Béat et à Estérie d'Aneu, après Salardu. Puis ils importaient des laines d'Espagne. Ils importaient des laines de très bonne qualité et qui étaient lavées à Vénasque parce que c'était l'eau la plus pure et donc c'était les meilleures laines.
Oui.
Et ils importaient cela, ils faisaient un commerce, je dirais, normal, classique.
Mm-hmm.
Les Martins avaient besoin d'un bouc émissaire et puis la haine est mauvaise conseillère.
Tout à fait.
Il y a une haine, il y a une jalousie des Martins qui voudraient être aussi riches que les de Fondeville, peut-être aussi prestigieux aussi qu'eux. Et on va les combattre dans un premier temps au niveau des affaires, et puis dans un deuxième temps, on va essayer de les détruire physiquement. Ces périodes révolutionnaires, comme ça, sont des périodes où il y a à la fois des personnages authentiques qui veulent vraiment faire changer les choses, et puis d'autres qui utilisent la grande pagaille collective pour s'emparer de richesses des autres. Et les de Fondeville ont été des boucs émissaires dans cette affaire-là.
Cadé a été jugé. Puisque, il a fait l'acte, il est condamné à la roue par image. Vous pouvez expliquer en quelques mots
quand on est condamné par effigie, il est jugé par contumace parce qu'il est en Espagne, à Toulouse. Il est mis sur la sellette, mais il n'y est pas. On juge quelqu'un qui n'y est pas, mais ça arrive encore aujourd'hui par contumace. Et puis, il est condamné à mort. Et comme il n'est pas présent, par effigie. Donc, dans ces cas-là, on faisait une image, quelque chose qui représentait la personne. Et puis, c'était l'image qui était exécutée.
Oui.
Voilà.
Le juge criminel
Sabalos.
Oui. Est-ce qu'il a compris ce que faisaient les Martins finalement ou pas?
Oui, je pense.
C'est une question qui m'a...
Oui, je pense. Parce qu'il a subi des pressions, on le voit dans le roman.
Oui.
Il a eu du mal à récupérer le dossier. Qu'est-ce qui pouvait expliquer qu'un juge ne transmette pas le dossier puisqu'il est normalement dessaisi? Il n'a pas fait les actes de procédure qu'il fallait.
Oui.
Et puis, il y a toujours, à cette époque-là, cette difficulté de savoir quelle est l'instance qui est légitime pour mener l'enquête. Si le seigneur est tué au centre du chemin, c'est un chemin royal, c'est donc Sabalos et Toulouse qui doit juger. Et puis, s'il est tué à côté, eh bien, c'est le juge royal de Saint-Béat. Donc, il y a un flottement. Mais ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est quand même qu'il faut que l'huissier qui travaille avec le juge royal de Saint-Béat soit convoqué à Toulouse et soit sommé de donner son dossier, alors qu'il le refuse. Et s'il ne donne pas le dossier, il file en prison. Il transmet le dossier, mais il est obligé. Il y a une rétention d'informations qui est provoquée par la pression qu'exercent les Martins sur les gens de Saint-Béat. Ils menacent quand même de coups de fusil les uns et les autres. Ce sont des grosses brutes. Et là, les gens se disent, ils sont passés à l'acte. Ils ont tué un seigneur. Je pense qu'ils font peur à tout le monde.
Oui. Chaque chapitre est écrit en 3D. Est-ce que c'est pour mieux garder le lecteur que vous arrivez à écrire comme ça ou est-ce que c'est vous qui écrivez toujours comme ça?
Ça, c'est certainement dû au fait que je me suis complètement immergé dans cette histoire.
Mm-hmm.
Cette histoire, elle est racontée à partir d'un territoire que je connais. J'ai souvent écrit assis sur une pierre dans un village.
D'accord.
Sur un petit carnet. Je parle de la corniche ici, de la tuile qui dépasse, de l'eau qui chante dans l'abreuvoir. J'imagine que le lecteur, lui aussi, il est plongé dans ce territoire. Beaucoup de lecteurs m'ont dit ce que vous me dites. On sent la chaleur, on sent le bruit, on sent le...
Les odeurs du bois, de la forêt, le bruit des poutres dans les maisons, c'est extraordinaire.
Quand on écrit, et ça c'est dans tous mes romans c'est comme ça, je m'étais aperçu, surtout dans Le Matin du Crocodile que j'ai publié chez Michalon, qui se passe en Indonésie. Quand j'ai relu le début du texte, je n'ai pas retrouvé l'humidité et la chaleur. Il a fallu donc que je change la longueur des phrases, quelques mots, quelques éléments de vocabulaire, pour qu'à un moment donné, le lecteur sente qu'il faisait très chaud, très humide, oui. Que les vêtements collaient à la peau. Il y a aussi dans l'écriture la dimension de la sensorielle. Le mot qui est choisi, le rythme, un jet par exemple qui gratte le grain, ça grippe et on le ressent.
Oui.
Il y a des mots, il y a des sonorités qui restituent la chaleur, le bruit, la fluidité. Et c'est tout le travail de l'écriture, je dirais même presque de la réécriture.
Mmh. Le baptême de la loge maçonnique, vous en avez parlé. Rapidement, est-ce que vous avez trouvé des documents de ça?
Bon, oui.
Parce qu'on dit tout le temps que c'est très fermé, qu'on ne sait pas. C'est...
Ce que j'ai découvert, c'est le décalage qu'il y a entre ce que j'avais entendu,
oui.
Ce que tout le monde entend, et la réalité.
D'accord.
Mais c'est exactement la même chose pour toute cette histoire, d'ailleurs.
Oui.
Entre ce qui se raconte, bon, les nobles, ils faisaient ceci, et la réalité des archives, il y a une différence. En fait, ces archives, elles ne sont pas secrètes, elles sont discrètes.
Okay.
Et ça vient essentiellement du fait qu'à un moment donné, ce mouvement philosophique a été mis en danger au moment de l'occupation allemande.
Mmh.
Je pense que dans leur état d'esprit, il y a toujours cette idée que le danger guette et plane. Moi, j'ai une accréditation de chercheur. J'ai pu voir des documents et ce que j'ai vu est à l'opposé absolu de ce que j'imaginais.
D'accord.
Je ne savais pas qu'il y avait des curés, par exemple, et que c'était même le chanoine de la collégiale de Saint-Gaudens qui avait créé cette loge.
D'accord.
Avec des curés. Et on voit les noms, les signatures, oui. Des curés des diverses communes, plus des nobles, les nobles les plus connus de la région qui étaient, et des riches marchands.
Mm-hmm.
Puis on voit les comptes rendus, puisqu'ils notaient, moi j'ai vu les comptes rendus de 1748 à 1810 ou 11 à peu près.
Mm-hmm.
À peu près. Mais on voit les comptes rendus, on voit ce qu'ils faisaient. C'était l'équivalent de ce que font les clubs services comme les Kiwanis, le Lions Club, etc.
Oui.
C'est-à-dire des gens qui avaient un petit peu d'argent, qui réfléchissaient aussi.
Oui, alors justement, c'est quand même à l'opposé, parce que ce curé qu'il y a là, à un moment, il est quand même... parce qu'il est à la loge,
oui.
Mais il est aussi pour les Martins. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui.
Ah non, ce n'est pas le même.
Ah, c'est pas le même.
Ah non, c'est pas le même. C'est pas le même. Le chanoine Giscarrot qui a créé cette loge, j'ai retrouvé d'ailleurs dans un document du Vatican qu'il n'a pas été excommunié, mais disons qu'il était dans une liste d'ecclésiastiques francs-maçons.
Ah.
Et qui était dans un document qui dénonçait un petit peu cette. Ça commençait à inquiéter un petit peu l'Église, tout cela.
Mm-hmm.
Le chanoine Giscarrot, lui, il a monté des pièces de théâtre de Voltaire à Saint-Gaudens. On trouve d'ailleurs une description de tout cela dans la revue du Comège, la revue de la Société des études du Comège. Et cette revue est formidable d'ailleurs. Mm-hmm. J'invite tout le monde à la lire parce qu'on trouve énormément de choses. Et il y a tout un article assez long justement sur la franc-maçonnerie à Saint-Gaudens à cette époque-là.
Qui est Cazat? Est-ce que tout ce beau monde ne danse pas finalement sur la tombe des Fondeville?
Ils sont... plus ou moins liés par des mariages croisés à la même famille. Hein. Les Martins ne sont pas isolés. La femme de Martin, de Gérard Martin, s'appelle Marie Saccaze et son frère Saccaze est un riche marchand de Saint-Béat. Et les Saccaze sont mariés avec les Cazat, etc. Il y a là quelques familles, je dirais, qui contrôlent un petit peu tout l'aspect économique de
oui.
Saint-Béat. Et les Martins s'associent par mariage et rentrent dans ce cercle-là.
Page 90, on va retrouver cette énigme que l'on voit chaque fois dans la trilogie. L'espagnol, l'instruction est-elle importante pour manier le peuple?
Je vais simplifier ma réponse ou la rendre peut-être un peu énigmatique. J'ai trouvé dans les archives et dans les pièces du procès des références à des Espagnols qui pouvait être légitimement amené à reprocher un certain nombre de choses à la famille de Fondeville, et notamment à Bertrand de Fondeville.
Mm-hmm.
Je ne peux pas trop en dire,
oui,
en dire
tout à
plus,
fait.
Mais
faut pas dire, faut pas.
C'est oui. Pour ça qu'il y a cette présence. Alors j'ai voulu la laisser énigmatique.
Mm-hmm.
Parce qu'effectivement, il s'en parle très peu dans le procès.
Oui.
Très très peu. C'est juste légèrement évoqué comme une piste possible. Et moi, comme je disais en début de notre entretien, j'ai vu des pièces notariales qui attestent qu'effectivement, il y a des liens. Il y a des liens et des liens commerciaux, mais aussi problématiques avec des familles espagnoles.
D'accord. On va essayer de garder le suspense le plus possible de cet assassinat à Saint-Béat. Le cours de l'enquête, ça a paru cet été en 2019 chez Cagir Édition. La couverture montre l'assassin, c'est Cadet que l'on trouve. Le château est en fond. Est-ce que c'est vous qui avez choisi cette image ou est-ce que c'est une image que vous avez appréciée?
Oui, oui, j'ai choisi cette image parce que bon, elle montre bien un personnage du 18e.
Oui.
Une gravure du 18e.
Puis on voit bien quelqu'un qui s'en va, quoi.
Et puis voilà. Ouais. C'est une image, donc elle est polysémique, et ce qui veut dire que chaque spectateur va en déduire du sens et y poser ses significations. Mm-hmm. C'est aussi ça, quand même, l'écriture et le livre. Moi, je propose un certain nombre de choses, mais je vois, en discutant avec les lecteurs, rencontre après rencontre, que certains ont vu des choses que moi-même, je n'avais pas imaginées.
Oui.
Il y a la possibilité, dans un texte ouvert, de s'approprier cette histoire et d'émettre ses propres hypothèses aussi.
On va avancer. La prison. Enfin, les Martins doivent y aller. Enfin, quand même, on les a pris. Est-ce qu'elle n'est pas un peu dorée pour eux?
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de prisons à cette époque-là. D'abord, pourquoi rentrent-ils et se livrent-ils prisonniers? Parce qu'ils savent très bien que cette affaire-là est mal engagée, dans un premier temps, et que ça va nuire à leurs affaires, premièrement. Deuxièmement, ils vont, par des manœuvres très adroites, ils utilisent quand même Élie de Beaumont, qui est quand même un personnage prestigieux à l'époque.
Tout à fait.
Même s'il décède au cours de cette affaire et qu'il ne la vivra pas jusqu'au bout. Mais ils ont engagé des avocats, ils ont beaucoup travaillé l'opinion publique, ils ont fait fuir les deux fonds de ville qui n'ont plus leur rôle de seigneur localement. À un moment donné, ils pensent certainement que l'affaire s'engage un petit peu mieux pour eux et qu'ils vont pouvoir, être acquittés de toute cette affaire. Ils vont pouvoir passer à travers les mailles du filet. Gérard rentre et accepte d'être jugé.
Oui.
Il rentre libre et il est incarcéré dans ces sortes de prisons qui étaient plutôt des, comment dire, des maisons. C'est pas la oui. prison telle qu'on l'imagine.
Parce que la façon dont il demande tout ce qu'il a besoin, on voit bien que c'est un peu doré.
Oui, oui. Mais ça existait à la Bastille aussi. Hein.
Oui, oui.
C'est-à-dire qu'à la Bastille, les quelques rares personnages un petit peu riches qui ont été incarcérés, mais ils pouvaient avoir de la nourriture, des vêtements, même un mobilier à eux.
Oui.
C'est quand même un petit peu particulier. C'est, comme je le disais tout à l'heure, le 18e est très, très, très complexe. Mm-hmm. Il y a le meilleur et le pire, il y a des choses.
C'est peut-être un tournant aussi de l'humanité française. C'est peut-être pour ça qu'il y a justement cette équivalence et cette ambiguïté.
Oui, on change vraiment de monde.
Oui.
Et il y a cette possibilité d'incarcération, elle est utilisée par les Martins.
Mm-hmm. En 1785, vous décrivez un nuage nauséabond. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans notre ciel? Est-ce qu'il y a eu vraiment un volcan?
Oui, j'ai retrouvé les traces dans les rapports de l'Académie des sciences de l'époque. Je ne sais plus si c'est 84 ou 85. Il y a le Laki, un volcan islandais qui entre en éruption. Et on constate ce nuage toxique jusqu'à Lisbonne.
Ah oui.
C'est très peu raconté, ça. On n'en parle jamais.
Oui.
Je n'ai pas trouvé de texte parlant de ce qui s'est passé avec ce volcan ici, sur notre territoire. Mais quand je vois les dégâts provoqués en Provence, là, pas mal de littérature. Ce qui s'est passé en Espagne et jusqu'à Lisbonne. Ce n'est pas possible qu'il y ait eu un petit territoire, une entité qui ait échappé à...
Ça s'est arrêté aux frontières.
Ça s'est arrêté juste aux frontières du Nébouzan et du Comège. Impossible. J'ai regardé quelles avaient été les conséquences et ce qu'avaient fait les scientifiques de l'époque pour vérifier la toxicité. Mm-hmm. J'ai trouvé effectivement des traces d'orages extraordinaires, de grêlons que je décris un petit peu dans la vallée de Luchon. Je n'ai pas trouvé de texte qui parle explicitement de ce volcan, mais des causes et des conséquences de ce volcan sur la mortalité.
Oui. Pause musicale et on va écouter votre deuxième titre, c'est Fil Glass.
C'est la musique que j'écoute quand j'écris. Thank you.
Nous retrouvons Christian Louis qui nous présente ce dernier tome de l'assassinat de Saint-Béat, le cours de l'enquête. Christian, les Martins sont insensibles au malheur de leur sujet. Rien n'a d'effet sur eux, rien, même pas la prison.
Je dirais pas qu'ils sont insensibles aux effets sur leur sujet parce qu'ils sont pas seigneurs, ils sont pas nobles, il n'y a pas de sujet. Mais je pense que ce sont des gens qui sont très rudes en affaires, très 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 difficiles. D'après ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu lire également, ils m'apparaissent comme des gens assez durs. Et mon hypothèse est fondée par ce que deviennent ensuite les Martins, en particulier Cadet, pendant la Révolution, quand ils s'associent à D'Artigoët, le terrible D'Artigoët. Il s'est quand même associé à quelqu'un qui était d'une violence inouïe, avec les sans-culottes, et qui a fait exécuter pas mal de monde, qui a signé des décrets quand il venait sur Saint-Gaudens. Ces Martins, pour moi, étaient des gens certainement très très durs, très très rudes, et rudes en affaires aussi.
Oui. On avance dans le livre, on est à la page 185. Martin est acquitté. Alors ça, j'ai trouvé que c'était un comble. Est-ce que les francs-maçons y ont contribué à cet acquittement?
Ah non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les francs-maçons, ils étaient du côté des deux Fondeville.
Oui.
Puisque.
Oui, mais à un moment, quand même, dans le livre, c'est un petit peu ambigu.
L'ambiguïté, elle vient du fait que probablement les Martins ont tenté d'utiliser cette carte à leur avantage, en particulier en prenant Élie de Beaumont et en jouant des relations qu'il peut y avoir entre francs-maçons. Il est fort probable que l'un de leurs avocats, je n'ai pas trouvé la preuve, mais un de leurs avocats devait être franc-maçon dans une loge toulousaine et a fait le lien avec la loge parisienne des Neuf Sœurs où était Élie de Beaumont et dont le responsable à cette époque-là était Benjamin Franklin, qui, l'Américain célèbre,
oui. Hein,
celui qui a porté la Constitution américaine. Je pense que de ce côté-là, effectivement, il y a eu certainement une aide. Mais il y avait aussi l'autre penchant, l'autre pendant du côté des deux Fondeville. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on voit bien comment fonctionne la franc-maçonnerie. On peut trouver des francs-maçons dans les deux camps. Majoritairement, je pense quand même que ça penchait sur le côté de Fondeville, puisque de Fondeville va rentrer dans la loge de Tarbes.
Oui, mais pourtant, à un moment, on sent bien qu'ils sont réticents quand même.
Je dirais qu'ils sont prudents.
D'accord.
Dans les comptes rendus que j'ai vus, que j'ai trouvés,
oui.
Je vois que si par exemple l'un d'entre eux ne se comporte pas bien, il est admonesté par les autres francs-maçons. Mais pour des choses des fois infimes. Par exemple, il y en a un qui sera le personnage d'un de mes prochains romans d'ailleurs, qui a été absent souvent à leur réunion, eh bien il est sanctionné.
D'accord.
Parce qu'il a été absent.
Oui.
Il y a quand même une rigueur là-dedans. Pierre-Claire de Fondeville va devenir franc-maçon à la loge La Paix de Tarbes. Et puis, il va devenir leur chef,
oui.
Leur vénérable maître. Et il y a dans cette loge aussi beaucoup de francs-maçons qui sont avocats du Parlement.
Mm-hmm.
Mais ce que l'on voit très nettement et ce que les historiens montrent bien, et ça va contre les idées reçues, c'est que les francs-maçons ne protègent pas quelqu'un qui a fauté,
ça
même
c'est...
s'il est franc-maçon.
Oui.
C'est-à-dire que il n'y a pas, contrairement à ce que pourraient croire les gens, des copains et des coquins entre eux, et puis s'il y en a qui font des choses mal, eh bien, ils sont quand même protégés. C'est pas du tout ce que montre l'histoire.
Oui.
Hein, c'est pas du tout ça. Ils sont exclus ou mis de côté. Il n'y a pas de connivence, je dirais, à ce niveau-là.
Oui.
Et dans cette affaire-là, bon, il y a des parlementaires qui sont francs-maçons et qui connaissent certainement de Fondeville. Certains sont de la famille de Lassus, donc de la famille de Fondeville, et ils vont quand même acquitter Martin.
Oui.
Ce qui veut dire que la défense a été bien construite.
Oui. On est quelques pages après. On retrouve l'homme à la grande cape. Est-ce que cet homme est franc-maçon?
Non.
Très bien. Joseph Martin est aguerri par son père. Il a toujours houspillé, même s'il n'a pas la même éducation. Et en 1788, il échappe de peu à l'inévitable. Comment est-ce que ça peut s'expliquer, ça? Parce que lui aussi a failli être lynché.
Cette histoire,
elle est ambiguë.
Elle est très, 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 très complexe. C'est pour ça que j'ai passé 6 ans à essayer de débrouiller des fils. C'est vraiment complexe. Parce que dans un premier temps, lorsque les Martins commettent ces fautes, il y a expertise, on chiffre les dégâts, ils sont condamnés à payer ces dégâts. Ça paraît logique.
Oui, tout à fait.
Ils font appel. Et lors de l'appel, ils publient des mémoires qui sont diffusées largement pour faire pression sur les parlementaires. Eh bien, en appel, non seulement ils sont acquittés, alors ça paraît tout à fait étonnant, et en plus, De Fondeville est condamné à une énorme somme.
Et oui, tout à fait.
Une énorme somme, mais une somme considérable pour l'époque, et même à rembourser la publication du mémoire qui était fait contre eux. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. La justice à l'époque, je le montre un petit peu, quand on voit les témoignages, quelqu'un qui témoigne, je le disais lors d'une autre émission, il a vu la silhouette d'un personnage, c'est un quart de preuve.
Tout à fait.
Un autre a vu une ombre passer, c'est un quart de preuve. Quatre quarts de preuve, c'est une preuve.
Et oui. Tout à fait.
Et puis, les témoignages sont rémunérés aussi. Donc, on va dans le sens du... Dans un premier temps, peut-être, il y a eu des témoignages pour les De Fondeville, parce que tout le monde avait entendu les Martins protester et menacer de mort. Et puis, dans un deuxième temps, les gens se sont dit...
Martin, il va nous avoir à nous.
Exactement. Ils ont changé de position.
Oui.
Donc, tout ça, ça remonte au Parlement. Puis, les avocats sont très adroits. Et puis, la stratégie d'Élie de Beaumont, sa stratégie consiste à détruire l'argumentaire en défense.
Mm-hmm.
Ils n'apportent pas forcément des éléments nouveaux. C'est « je détruis ». C'est-à-dire, tout ce que dit De Fondeville et ses défenseurs n'est pas valable parce qu'il y a un des membres du Parlement qui est de la famille de Lassus, donc De Fondeville. Donc tout ce qu'ils ont dit n'est pas valable. Donc on détruit l'argumentaire de l'autre, non pas en prouvant qu'il est faux, mais en disant « il y a connivence ». Et donc toute cette affaire s'est jouée sur ça. Il y a connivence entre les De Fondeville et le Parlement de Toulouse. Et ce faisant, les parlementaires ne veulent pas faire une nouvelle erreur judiciaire comme Calas. Et je pense qu'à mon donné, ils préfèrent acquitter Martin plutôt que d'être accusé d'erreur judiciaire.
Et oui, ça se comprend. Vous avez romancé à la page 219 François de Bessan qui a soutenu les Martins bien qu'amis des Fondeville. C'est encore l'ambiguïté de l'histoire.
Oui. Ça, c'est tout à fait étonnant parce que Bessan de Rapp est un ami de. D'ailleurs, avant l'assassinat du Seigneur, ils ont passé le week-end ensemble à Fos.
Exactement.
Chez un des membres de la famille de Fondeville, qu'ils ont dîné, etc. Ils ont certainement discuté, fumé la pipe, etc. Et puis ils rentrent, et puis là, le Seigneur est assassiné.
Oui.
Je ne peux pas exclure le fait que François de Bessan de Rapp ait lui aussi craint de prendre un coup de fusil de la part des Martins, ainsi que le curé de Tuzaguet, parce qu'ils ont écrit pour se désolidariser, se mettre à l'écart de cette affaire, alors qu'il est procureur du roi.
Caillot de Campel, le juge royal, quel rôle a-t-il joué ?
Là aussi, un rôle ambigu, puisque normalement, il doit emprisonner les Martins tout de suite. Il y a une prison à Saint-Béa. Il met en prison des gens qui se bagarrent. J'ai trouvé des traces, justement, de bagarres dans les archives où les gens étaient en prison pour des coups de poing ou des coups de bâton.
Oui.
Et là, il y a un crime.
Et il ne le fait pas.
Et il ne le fait pas. Donc, je pense que lui aussi, c'est quelqu'un qui vit à quelques mètres des Martins, et il peut craindre un coup de fusil, certainement. Moi, je pense que les Martins font régner la terreur sur Saint-Béa à cette époque-là.
Oui. 1789, c'est le début du chaos. Est-ce que ça a joué un rôle dans ce procès ?
Oui, parce que Gérard Martin va quitter la prison de Toulouse pour aller sur la prison de Pau, puisque l'administration du roi considère que là, il y a trop de soupçons, de connivence, de pression. On dit on va passer au Parlement de Pau. Et c'est le Parlement de Pau qui va reprendre l'enquête. Et donc, il est à Pau. Et là, la révolution arrive et on perd toute trace de Martin. On pense qu'il est mort probablement en prison parce qu'il était quand même malade.
Oui, tout à fait. Et puis, à force, peut-être a-t-il vu aussi que le mauvais, finalement, finit par ronger l'être au plus profond de lui.
Oui, ça c'est une des hypothèses que je décris, mais je pense que quelqu'un qui est comme ça aussi teigneux, aussi agressif et libre de faire ce qu'il veut, passer des années en prison, je pense que ça a dû le détruire.
Tout à fait.
Très probablement. En plus, il était malade.
Oui. Pierre Clerc est philosophe ou un sage parce que il accepte d'être le maire de Tarbes, il est forcément philosophe et sage, à mon avis.
Oui. Tout le montre dans ses écrits. Oui. Il a publié 7 ou 8 livres qui sont disponibles à la BNF. Le premier, c'est un plaidoyer pour l'impôt qui devrait être payé par tout le monde. Donc c'est en 1789. Il explique que ce ne peut pas être que les paysans qui paient l'impôt au profit du clergé et de la noblesse, mais que le clergé et la noblesse devraient aussi contribuer.
C'est très actualité, ça.
Oui, pour l'époque. Faut dire que ces francs-maçons à l'époque, ils ont mis en place un système d'élection. C'est-à-dire, je crois que je le disais lors d'une émission précédente, c'est-à-dire que quelqu'un qui est seigneur en dehors de la loge peut être le secrétaire d'un marchand dans la loge. Si le marchand a été élu, voilà, parce qu'il y a des élections qui n'existent pas dans le pays d'ailleurs. Hein. Là, il y a vraiment des élections, on n'achète pas les charges. On imagine bien que dans ces loges-là, des idées nouvelles émergent complètement. Il faut quand même que ces nobles-là aient une certaine dose de sagesse pour, sur un temps donné, à un moment donné, pouvoir donner ou laisser le pouvoir à d'autres.
Oui.
Et je pense que c'est cette sagesse qui a fait qu'il a été nommé donc chef de la garde nationale pendant la Révolution et premier maire élu de Tarbes. Ça, c'est quand même assez formidable. Et premier président du conseil départemental. Ça s'appelait l'Assemblée départementale. Oui. Donc je pense que c'est un homme sage, très respecté. Et puis on voit bien, on trouve encore sur Internet des ventes de livres de sa bibliothèque. Dans son château de la Battue-Rivière, château qui est en ruine, il y a une tour. Il faut imaginer que dans cette tour, il y avait sa bibliothèque. Il y avait Goethe, il y avait un certain nombre d'auteurs, de philosophes qui étaient dans cette bibliothèque. Et ces livres-là, il les faisait relier cuir rouge avec les armes et puis il les mettait dans sa bibliothèque. Donc c'est un homme qui est un homme à la fois un homme d'action, un politique, et aussi quelqu'un qui est au milieu des livres.
Oui. Les Martins continuent à être bûcherons. Est-ce qu'ils font toujours régner la terreur, même si... le père est en prison ou s'il est décédé.
Ils sont plutôt marchands de bois,
oui. Hein,
marchands de bois, de draps également, de charbon de bois. Donc ils vont étendre leurs affaires.
Oui.
Voilà. Ensuite, au XIXe siècle, on le voit, ils deviennent, certains rentrent donc dans l'armée et deviennent des officiers supérieurs. Puis ils rentrent aussi dans la magistrature. Hein. Il y en a un qui devient préfet, par exemple, aussi. Donc, il se déplace, je dirais, de cet état de marchand local à aux fonctionnaires et membres de la justice. Il y en a qui est procureur du roi, par exemple.
Gérard Martin finit en prison. En tout cas, c'est supposé. Est-ce qu'il a accepté, finalement, de finir en prison pour sauver Cadet?
Non, je ne crois pas.
Non?
Non, je pense qu'il a cru jusqu'au bout qu'il allait être libéré.
D'accord.
Et il n'a accepté d'être emprisonné que pour voir cette affaire résolue, réglée, je dirais, au niveau des avocats.
Oui.
Je pense que c'est la seule raison.
Page 230, on va essayer de ne rien dévoiler, mais moi je dirais qu'à ce stade-là, tout est dans le chapeau. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, et effectivement, si je parle beaucoup de ce chapeau tout le long du livre, c'est parce qu'il est une énigme qui est pointée par beaucoup de témoins.
Oui.
Je ne peux pas en dire plus. Mais c'est pour ça que j'ai, tout le long du roman, tout le long des trois tomes, j'ai laissé des petites pierres comme ça.
Tout à fait.
Qui ressurgissent de temps en temps et petit à petit, on découvre le contexte. Et ça s'élargit. Au début, c'est mystérieux, il y a ce chapeau, dès le départ. Il est là dès le départ, le chapeau.
Tout à fait. J'aurais dû le comprendre plus tôt. Je l'imaginais, mais je me disais, pourquoi ce chapeau? Voilà. Donc, j'avais bien vu au premier, j'aurais dû comprendre que le chapeau, finalement, c'était le chapeau.
Ouais. J'ai écrit ce roman sous forme de... pour susciter des questions chez le lecteur et de temps en temps des réponses, quelquefois des réponses que j'ai orientées pour qu'elles soient fausses et qu'elles refassent un mystère.
Tout à fait.
Et ce que me disent les lecteurs... Ils voient trois tomes, ils se disent waouh, c'est long, et ils n'arrêtent plus jusqu'à la fin du troisième tome.
On peut pas.
Comme si on était sur la rivière Garonne et si on était sur un radeau et on peut plus s'arrêter.
En effet, on ne peut pas s'arrêter. Vous avez fait de belles recherches pour une belle preuve historique qui s'est passée chez nous. Moi personnellement, je tiens à vous remercier parce que jamais je n'aurais eu l'idée d'une chose pareille chez nous et de nous l'avoir fait découvrir. Pour ce territoire sud-caronnais, c'est vraiment immense et j'appelle les auditeurs à lire vos livres parce que c'est l'histoire vraiment de chez nous. Est-ce que vous pensez que les hommes savent tirer les leçons de l'histoire, justement?
Non. C'est terrible à dire, mais je crois que non. Quand on regarde la période actuelle, non, non, non. On pourrait, aborder énormément de sujets. Ce matin, j'entendais, je crois que c'était sur France Culture ou sur France Inter, l'invité d'une émission qui avait choisi comme morceau à faire entendre ce que disait René Dumont en 1974. René Dumont, en 1974, il parlait de la situation d'aujourd'hui, sur le réchauffement climatique, sur... En 1974, personne ne l'a entendu. Personne ne l'a entendu. Le choix de l'attitude révolutionnaire, par exemple, pour régler un problème. Et quand on voit que tout de suite après, il y a toujours une dictature. Et après, il faut une guerre pour quitter cette dictature. Tout ça, on a l'impression que les hommes ne regardent pas l'histoire, ne se posent pas. Et ça, c'est un peu, oui, c'est un petit peu déprimant parce qu'on voit que les catastrophes du passé vont continuer.
Pour ma part, Christian, moi, j'ai tiré une conclusion de ce livre. Je me dis que, et ça sera d'ailleurs ma conclusion pour terminer cette trilogie, que les Martins se suivent, se ressemblent quelque part, mais qu'il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Et là, vous voyez de quoi je veux parler, qu'il y a des écrits sur les deux derniers meurtres ou pas. Il y a des traces. Les deux derniers meurtres, je ne veux pas qu'on en parle.
Oui, mais je ne veux pas en parler. On laissera le lecteur dans son interrogation.
Juste savoir s'il y a eu des traces, parce qu'apparemment, il n'y a pas d'écrit.
Non, je ne réponds pas. Je ne réponds pas à cette question. Bon. Mais ma non-réponse sera comprise par le lecteur. Ce que je peux dire, par contre, c'est qu'il y a une partie importante pour tous ceux qui se sont posés des questions, parce qu'on peut le lire comme un roman d'aventure. Oui. Et puis, il y a ceux qui peuvent s'interroger, comme vous le faites, sur la part d'histoire de cette affaire à tester. Et c'est pour ça que j'ai mis, à la fin du tome 3, plusieurs pages de sources pour ceux qui veulent approfondir, ceux qui se disent « mais cette histoire de volcan, on n'en a pas parlé ». Qu'ils aillent voir ce qui se disait à l'époque dans les rapports de l'Académie des sciences. Pareil pour l'épizootie, pareil pour un certain nombre de sujets bien particuliers.
Bien.
C'est-à-dire qu'on peut rester sur la fiction, mais si on veut en savoir plus, eh bien, on peut faire tout ce travail d'approfondissement historique. Et pour le reste, il faut garder une part de mystère.
Un autre ouvrage en cours ?
Oui, oui, oui. J'ai terminé il y a deux jours un roman contemporain, un roman policier contemporain qui se passe sur notre territoire aussi. Un professeur de philosophie a été assassiné. Une femme policière, une major Blandine Pujol, mène l'enquête avec un journaliste, Vincent Darbon. Par cette enquête, ils vont, comment dire, scanner une petite ville d'Occitanie. C'est le prochain qui va être publié, je dirais, très bientôt chez quel éditeur. Puis il y a La Belle Génoise. La Belle Génoise qui est un roman à la fois contemporain et historique, légèrement fantastique, qui se passe aujourd'hui en période napoléonienne et qui va faire l'objet très probablement, c'est en cours de constitution, d'un film. Je présenterai ce récit qui est quasiment terminé à Luchon dans le cadre du Festival du film et des fictions télévisuelles, à la librairie des Termes. Donc je ferai une rencontre avec la libraire et il y aura une des comédiennes qui tournera dans ce film qui sera à mes côtés.
Christian Louis, L'assassinat de Saint-Béat, le troisième tome, on vient d'en parler. Je vous laisse le mot de la fin avec cette musique qui va finir cette reliure et je vous dis à bientôt.
Eh bien, le mot de la fin, ça sera... Bonne lecture au fil de l'eau et bonne redécouverte de notre territoire et de notre histoire.
Et on finit avec Ridan, Ulysse.
Le petit village, le retour au petit village qui est, comme le roman, un retour à nos sources.
Fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là, quiconque il a toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents, le reste de son âge, quand reverrai-je hélas de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison? Je fumais la cheminée et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village? Je fumais la cheminée et en quelle saison? ma pauvre maison, qui m'est une province, et beaucoup d'avantages, plus me plaît le séjour qu'on bâtit mes aïeux, que des palais romains, le front audacieux, plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le mont palatin, et plus que l'air marin, la douce angevine. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Traverser les mers à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, retranché dans une cale et mes vieux tympans percés pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soi-disant pavés d'or. Quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je?
Avec Gisèle. C'est une rencontre intimiste avec les faiseurs de livres.